Chapitre 6. Devine, Henri, devine la bonne surprise! S'écria madame d'Agincourt en accourant vers son fils, une lettre à la main.
Mais comment veux-tu? Je ne sais pas, moi.
Ton oncle Albert qui arrive ce soir. Il a quitté Lunéville il y a 2 jours. Il m'écrit de Paris, d'où il doit partir ce matin pour Bordeaux.
En effet, voilà une excellente nouvelle, fit le jeune homme. Je serai enchanté de le voir, ce cher oncle.
Puis, tout en prenant la lettre pour la parcourir, il poussa un soupir de soulagement.
Fausse alerte, Dieu merci.
3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où un incroyable concours de circonstances avait fait d'Angèle sa maîtresse, et depuis ce temps, le malheureux vivait dans des transes continuelles, tremblant qu'une indiscrétion, une méchanceté, ne révélasse la vérité à sa mère. Le brave garçon prenait son rôle au sérieux. D'ailleurs, connaissant mieux maintenant les trésors de tendresse et de délicatesse dont le cœur de la jeune fille était plein, il l'aimait tous les jours plus sincèrement, plus profondément. Et toutes ses préoccupations tendaient à ce qu'aucune contrariété ne l'atteignît à cause de la situation irrégulière qu'il lui avait créée. Aussi son existence n'était-elle qu'une perpétuelle inquiétude. Un mot, une allusion, une interrogation brusque, une interruption de madame d'Agincourt bouleversaient le garde général. Et, toujours respectueuse envers sa mère, bien qu'il eût secoué sa tutelle, il frémissait à la constante appréhension des tracas qui résulteraient, pour elle autant que pour Angèle, d'une intempestive révélation. Quand il eut achevé sa lecture, le jeune homme répéta
« Oui, ce brave homme a eu décidément une excellente idée. Je n'ai pas grand travail en ce moment, je pourrai lui faire voir les environs. Par ce beau temps, ce sera charmant. »
Madame d'Agincourt ne répondit pas. Elle se contenta d'approuver d'un signe de tête, en souriant, d'un petit sourire discret, quelque peu narquois, qui semblait dire
« N'aie pas peur, mon enfant. Ton bon oncle Albert d'Agincourt n'a pas eu tout seul l'idée de quitter sa retraite de Lunéville pour venir battre le pavé de Bordeaux. C'est moi, ta mère, qui lui ai soufflé ce projet, non sans peine d'ailleurs, parce que j'ai deviné le désarroi où tu t'agites depuis quelque temps, et que, craignant de n'avoir ni l'expérience ni l'autorité suffisante pour te remettre dans la bonne voie, j'ai cru devoir appeler à mon aide le seul homme de la famille dans lequel tu aies confiance, le seul qui ait de l'action sur toi. »
En relevant les yeux, Henri vit ce sourire discrètement ironique flotter sur les lèvres de la vieille dame. Et tout de suite, il eut une intuition de la vérité. « Pauvre maman, pensa-t-il, si tu te figures avoir eu là une inspiration géniale, tu te trompes. Enfin !» Et après un instant de silence, il reprit tout haut. « Ne t'occupe pas de mon oncle ce soir, n'est-ce pas? Je me charge d'aller l'attendre à la gare. Le train n'arrive qu'à 6 heures, je serai libre à 4h30. » Le soir, comme il avait promis, Henri faisait les 100 pas sous le hall de la Bastide lorsque le rapide de Paris stoppa. Parmi les voyageurs, peu nombreux, il n'eut pas de peine à trouver son oncle, qu'il avait d'ailleurs reconnu également tout de suite. 4 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière entrevue, car à son dernier voyage en Lorraine, le garde général n'avait pas eu le temps de pousser jusqu'à Lunéville. À première vue, M. d'Agincourt n'avait pas changé. C'était toujours le grand vieillard, à la taille haute et droite, à la tournure militaire. Toutefois, Henri s'étant approché pour aider son oncle à descendre, sentit, à la façon dont il s'appuyait sur son bras, qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences et que 4 années sont un poids considérable sur les épaules d'un homme qui en porte déjà 68.
« Ouf, quel voyage !» grommela l'ancien inspecteur des forêts, comme s'il eût deviné la réflexion du jeune homme. « Les jambes s'engourdissent à la longue. Avec cela, ces wagons sont d'une hauteur. » Puis, songeant aux épanchements nécessaires après une aussi longue séparation, il embrassa son neveu et dit «
Eh bien, mon ami, comment ça va? Ta santé, ta carrière et ta mère?
Très bien. Et vous, mon oncle?
Mais d'ailleurs, la réponse est superflue. Je constate que vous rajeunissez de plus en plus.
Moque-toi de moi, sans cœur. Je rajeunis avec des accès de goutte tous les 6 mois et des crises d'angine de poitrine dans l'intervalle. Jolie la jeunesse. Allons, allons, je vois que vous n'avez pas perdu l'habitude de vous plaindre. 2 ou 3 mois de séjour dans le Midi vous remettront complètement. Savez-vous, mon oncle, que c'est bien gentil d'avoir pensé à nous et que vous nous faites une surprise charmante ? Oui, oui, répliqua M. d'Agincourt, les vieux ont de ces idées-là, des idées bizarres qui les prennent brusquement. Avant de passer dans l'autre monde, ils veulent revoir leur famille. On est si peu certain de la retrouver après. Nous prenons une voiture, mon oncle, demanda Henri. Ah, mais non, par exemple, j'ai assez roulé depuis 3 jours. Je marche. C'est loin. Ça m'est égal. Bon, en ce cas, attendez-moi, je vais donner des ordres pour les bagages. Alors, doucement, après avoir traversé la Garonne, ils s'acheminèrent par les quais, les cours du Chapeau Rouge et de l'Intendance, vers la rue du Palais Gallien. La conversation ne sortait plus des banalités ordinaires. Il semblait qu'une défiance réciproque paralysait toute velléité d'expansion. Le dîner, de même, malgré les efforts d'amabilité de Madame d'Agincourt, fut marqué d'une certaine gêne. Puis, le soir, après une courte promenade aux allées et un tour au cercle, l'ancien forestier prétexta une grande fatigue pour se retirer de bonne heure dans sa chambre. « Il a vieilli, ton oncle !» dit Madame d'Agincourt à son fils lorsque celui-ci vint lui souhaiter le bonsoir. Et en elle-même, elle pensait « Franchement, s'il met tous les jours la même ardeur à servir mes vues, ce n'était pas la peine qu'il se dérangeât. » Le lendemain, ce fut bien pis. Le maudit oncle ne comprenait pas ou n'avait pas du tout l'air de comprendre ce qu'on lui voulait. Comme ils achevaient de déjeuner, Henri demanda « Eh bien, mon oncle, par où commençons-nous la visite de Bordeaux ? J'ai l'autorisation en l'honneur de votre voyage. » Ce donc, entre parenthèses, il faudra bien que vous alliez remercier Monsieur le conservateur. J'ai l'autorisation de disposer de ma journée. Donc, je suis à vos ordres. Mon ami, répondit Monsieur d'Agincourt, je serai enchanté que tu guides mes flâneries de touristes. Mais les amis avant tout, n'est-ce pas? Ma première sortie, aujourd'hui, sera consacrée à mon vieux camarade, Amédée Chabran. La mère eut une grimace significative. « Je sais que vous êtes en relation, » continua l'ancien inspecteur. « Oui, c'est même grâce à vous que nous le sommes. »« Ce sont d'excellentes gens, n'est-il pas vrai ? » ?»« C'est-à-dire, enfin, je ne connais pas la famille, mais si elle a pris modèle sur son chef, sur ce brave Amédée... » Il s'arrêta en voyant la mine embarrassée de sa belle-sœur et de son neveu. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Vous êtes en mauvais termes ?» « Non, non. Alors tu viens avec moi, Henri ?»«
Chez les Chabran ?»«
Évidemment. »« C'est que, mon cher oncle, il y a, on pourrait croire, en un mot, je préférerais ne pas y aller. »«
Ah !» fit le vieillard en tortillant nerveusement sa moustache blanche.
Puis, après avoir regardé son neveu en face, droit dans les yeux, il ajouta « « C'est bien, j'irai seul. » Et ce fut tout. Il partit sans autre objection, de bonne heure, afin, expliqua-t-il, de ne pas manquer son ami, qui pouvait, plus tard, être appelé ailleurs par ses affaires. C'était à 2 pas, cours de Tourny, qu'habitait le grand industriel. Tombant chez lui à l'improviste, le déjeuner à peine fini, l'ancien inspecteur des forêts causa une révolution. « Comment, c'est toi, mon cher Albert ? Mais d'où viens-tu? D'où sors-tu? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus?
Je viens, je me donne de l'air et je fais des surprises. Ça ne me déplaît pas.
C'en est une, tu peux le croire, une fameuse. Que d'années, mon Dieu, depuis notre dernière rencontre. 15, 18, je ne me rappelle seulement plus. Tu étais encore à Valence, ce me semble. Eh, mais tu n'as pas rajeuni, mon vieux, sais-tu?
« Hélas, de qui pourrait-on dire le contraire ?»«
Très bien, toujours farceur. Ah, au fait, pardon de ma distraction, que je te présente, ma femme, ma fille. » Monsieur d'Agincourt s'inclina avec un sourire et un mot aimable. Mais son regard s'arrêta surtout sur Lucienne, qui rougit légèrement.
« Alors tu débarques de Lunéville ?» reprit Monsieur Chabran.
« Je suis arrivé hier soir.
Et naturellement, tu es installé chez
ta belle-sœur. »«
Oui. »
Il y eut une minute de malaise. L'industriel, reconnaissant sa maladresse, essayait de la réparer lorsqu'une visite inattendue vint apporter une utile diversion. Cette visite était celle de Mademoiselle Josiane de Nestalas. Et c'était chose tellement rare, même depuis les vagues projets de mariage entre Gaétan et Lucienne, que Mesdames Chabran ne purent cacher un mouvement d'étonnement. Ce mouvement n'échappa pas à Josiane, qui en saisit le sens et, comprenant la nécessité d'une explication, prit position tout de suite.
« J'ai tenu, dit-elle, à vous remercier sans retard de votre envoi de rosiers et de bégonias. »
« Oh, cela ne valait pas la peine de vous déranger, » fit M. Chabran. « J'espère, mademoiselle, que vous ne devons pas à cette seule raison le plaisir de votre visite. » Et comme la réponse se faisait attendre, l'industriel ajouta.
« Dis-moi, d'Agincourt, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons passer dans mon cabinet. Ces dames ont sans doute de graves questions de chiffons à traiter, nous les gênerions. »
Au nom de d'Agincourt, Josiane s'était retournée, surprise.
« C'est vrai, reprit M. Chabran, je manque à tous mes devoirs. M. d'Agincourt, que voici, est l'oncle de M. Henri d'Agincourt, que vous connaissez. »
Nouvel échange de salut, froid, réservé. Puis les deux groupes se séparèrent. Pendant que les femmes, au salon, bavardaient, les hommes gagnaient le cabinet de l'industriel et aussitôt leur conversation prenait un tour plus familier.
« Eh bien, les affaires marchent toujours. Tu es content ?»«
Mon Dieu, oui, les boîtes de thon et de sardines se vendent admirablement. » »«
C'est parfait. Tu vas songer maintenant à marier ta fille. Elle est charmante d'ailleurs. » »«
Oui, nous verrons cela un de ces jours. »
Il y eut un petit silence embarrassant. Et au bout d'un instant, changeant de conversation, Chabran reprit
« J'espère que tu es pour quelque temps à Bordeaux et que nous allons nous voir souvent. »
« Mais oui, sans doute, fit M. d'Agincourt distrait, les sourcils froncés. « Si je suis à Bordeaux pour longtemps,
dame, je ne sais pas, ça dépendra. Tu t'imagines peut-être que je suis venu ici pour me promener ?»«
Je croyais... »
« Non, mon ami, non. » Je suis vieux, tu me l'as dit, je suis souffrant, je n'aime pas à me déranger, je ne me serais pas mis en route sans une raison sérieuse. Devine qui a eu l'idée de me faire faire ce voyage et dans quel but.
Tu m'intrigues.
Eh bien, c'est tout simplement ma belle-sœur qui m'a écrit un jour en me priant de venir lui prêter l'appui de mon amitié et de mon autorité afin de remettre son fils dans la voie où son amour maternel voulait le faire entrer.
« Quelle voix ? Je ne comprends pas. »
Jusqu'à présent, je ne comprends pas davantage. Mais il paraît qu'Henri traverse en ce moment une crise qui, si elle n'est pas enrayée, peut menacer son avenir. Je ne sais rien, remarque-le, je ne sais rien, je suppose. Or, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour mon neveu, qui me le rend bien d'ailleurs. C'est un très gentil garçon, intelligent, instruit, sérieux. Il a toujours eu confiance en moi. J'ai conservé par conséquent sur lui une certaine influence dont je veux profiter pour exercer une action utile sur sa conduite. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à partir.
Je ne comprends toujours pas.
C'est peut-être plus clair que tu ne le prétends, riposta M. d'Agincourt en regardant son ami du coin de l'œil. Enfin, nous allons voir.
Sans doute, tu auras tout le temps de te renseigner.
Après une minute de silence, l'ancien inspecteur se leva et, se plantant devant M. Chabran,
« Écoute, reprit-il, parlons franchement. Je crois que tu peux m'être d'une grande utilité dans mon enquête. »«
Moi ? Mais je ne soupçonne même pas. » »«
Attends, laisse-moi tout dire. Tu ne trouveras pas mes questions indiscrètes. » »«
Tu plaisantes, quand on se connaît depuis près de 60 ans. »
Justement, c'est à ce titre, c'est au nom de notre vieille amitié que je me permets de prendre avec toi tant de liberté. J'ai une arrière-pensée que toi seul peux dissiper. Est-ce trop te demander ?
Mais pas du tout, fit Monsieur Chabran avec un imperceptible mouvement d'inquiétude.
Voici en deux mots, continua Monsieur d'Agincourt. Lorsque mon neveu a été nommé à Bordeaux, je lui ai indiqué ta maison, ta famille, comme devant lui offrir un centre de relations agréables. D'autre part, je t'écrivais à toi en te priant de faire bon accueil à Henri. Et tout de suite, mes désirs se réalisaient. Une grande intimité s'établissait entre vous. Quand je dis intimité, je n'exprime pas toute ma pensée, car j'ai encore très présentes à la mémoire certaines lettres de mon neveu, pleines de réticences, d'aveux déguisés, de demi-confidences, montrant clairement que le brave garçon avait rapporté de ses fréquentes visites chez vous autre chose que... Voyons, comment formuler ça ?
Inutile, j'ai compris, murmura l'industriel sans pouvoir dissimuler un geste d'ennui.
Donc, reprit l'ancien inspecteur, un point était acquis, ça ne marchait pas mal. Or, j'arrive, je demande à Henri s'il veut m'accompagner jusqu'ici. Embarras, hésitation, refus. Je passe outre et je viens seul. Par hasard, le nom de mon neveu est prononcé. Aussitôt, tu fais la grimace, ta femme timide, mademoiselle Lucienne se trouble. Eh bien, veux-tu, peux-tu m'expliquer ce que tout cela signifie ? Moi, j'ai tout bonnement l'air d'un imbécile au milieu de ces mystères.
Ce que cela signifie, répéta M. Chabran, de plus en plus contrarié.
Mon Dieu, c'est bien simple. D'ailleurs, je n'ai rien à te cacher. La vérité, la voici. Dès les premiers temps de leur séjour à Bordeaux, nous eûmes, c'est vrai, avec Mme d'Agincourt et son fils, d'assez cordiales relations. Elle m'était particulièrement agréable et nous n'aurions jamais songé qu'à les développer si, un beau jour, nous ne nous étions aperçus que M. Henri était près de Lucienne d'une assiduité trop soutenue. Le grand malheur, s'ils s'aimaient, ces jeunes gens, c'était dans l'ordre.
Oh, s'aimer comme tu y vas ! Tout au plus, aurait-on pu dire qu'ils ne se déplaisaient pas. Et je parie bien qu'à l'heure actuelle, ils ne pensent pas plus l'un que l'autre à cette fantaisie.
Tu me permettras d'en douter, interrompit doucement M. d'Agincourt.
Bref, poursuivit précipitamment M. Chabran, ton neveu ne se contenta pas de faire discrètement la cour à Lucienne. Croyant l'aimer, comme tu l'affirmes, il voulut préciser la situation. Une de nos amies, qui est aussi la leur, fut chargée de nous pressentir.
Eh bien ?
Eh bien, évidemment, nous n'aurions pas mieux demandé. Moi surtout, j'étais très bien disposé en souvenir de notre vieille amitié, mais...
Mais quoi ? Penses-tu que ta fille se mésalirait en épousant mon neveu ?
Que vas-tu chercher là, mon pauvre Albert ? Il s'agit bien de mésalliance.
Non, mais vois-tu, par le temps qui court, l'argent...
Tu ne te froisseras pas de ma franchise.
L'argent joue un si grand rôle.
Ça suffit, n'insiste pas, moi aussi j'ai compris, interrompit sèchement M. d'Agincourt. Tu as amassé une grande fortune à vendre des boîtes de sardines, ta fille sera richement dotée et Henri ne gagne encore que 1800 francs à administrer les bois de l'État. C'est tout, n'est-ce pas ? Et voilà à tes yeux l'abîme infranchissable qui sépare ces deux enfants.
Tu exagères.
Non, non, je n'exagère rien.
Mais d'abord, mon cher, la situation d'Henri n'est pas immuable. Elle s'améliorera, elle croîtra, sinon grandement au point de vue pécuniaire, car que sont, pour vous autres industriels, quelques billets de 100 francs de plus ou de moins ? Du moins en dignité. Notre profession est entourée d'assez de considérations pour qu'on lui fasse des sacrifices.
Sans doute, approuvait M. Chabran sans oser lever les yeux.
Puis, continua M. d'Agincourt en s'animant, mon neveu n'est pas encore sur la paille que je sache. Outre ses appointements, il a quelques revenus. De plus, il sera l'unique héritier de certains vieil oncle qui n'en a pas pour longtemps maintenant. Or, ce vieil oncle, sans vendre de boîtes de conserve, s'est constitué tout de même une dizaine de mille francs de rente.
Comment ? Tu as pu amasser 10 000 francs de rente ? fit l'industriel avec un étonnement admiratif qui indiquait combien son ami venait brusquement de monter dans son estime.
« Oui, répéta bonnement M. d'Agincourt, et c'est tout pour Henri. »
« Tu as beaucoup de mérite, insista M. Chabran, qui n'eût pas été fâché de faire dévier la conversation. Mais l'ancien forestier ne paraissait pas décidé à lâcher prise.
« En définitive, continua-t-il, voilà bien du bruit pour rien et bien des obstacles imaginaires dressés comme à plaisir pour empêcher deux jeunes gens qui s'aiment d'être heureux. »
« Enfin, riposta M. Chabran avec impatience, je ne vois pas où tu prends cet amour. D'ailleurs, si nous avons opposé un refus à la demande de M. Henri, c'est que nous avions d'autres raisons et fort sérieuses. En un mot, puisque j'ai promis de tout dire, nous ne pouvions pas encourager concurremment deux prétendants à la main de Lucienne. Or, depuis longtemps, nous songions à un jeune châtelain des environs de l'Espard, « tiens, justement, le frère de cet ami de ma fille que tu viens de voir. »«
Il est riche, alors, ce monsieur ?» interrogea ironiquement M. d'Agincourt.
« Non, répondit ingénument l'industriel, mais il se nomme Gaétan de Nestala. »«
À la bonne heure, voilà qui est franc. Ah, mon pauvre Amédée, tu es encore sensible à ces niaiseries-là »
M. Chabran regarda son ami d'un air penaud. Il se taisait, cherchant un moyen de sortir dignement d'une discussion où il avait fait jusque-là piteuse figure. Mais plus il réfléchissait, moins il trouvait et plus son embarras augmentait. Alors, à la fin, désorienté, il avoua naïvement « Ah, et puis j'en ai assez de cette situation, ce n'est pas moi qui suis responsable. C'est ma femme qui a tout fait. Elle avait son Gaétan en tête. Moi, j'ai accepté. » Pour avoir la paix.
M. d'Agincourt se leva, un sourire dédaigneux sur les lèvres.
Décidément, le célibat a du bon, fit-il en redressant sa moustache blanche avec un petit geste conquérant. Et nous cherchons à marier les autres. Quelle amère ironie!
Chut, ces dames! Murmura M. Chabran en mettant un doigt sur sa bouche.
Tiens, non, c'est Valérac.
Il fit les présentations.
« Monsieur Emmanuel Valérac, mon cousin, Monsieur Albert d'Agincourt, un ami d'enfance. » Emmanuel Valérac, parent éloigné d'Amédée, était un pauvre diable resté veuf, sans enfant, à 50 ans, et sans un sou, après avoir eu une fortune magnifique qu'il avait dissipée dans toutes sortes de folies. Recueilli chez les Chabran, il y jouissait de la vie large, de tout le luxe de la maison, ce qui lui laissait l'illusion de n'avoir rien perdu. De plus, liberté absolue et pas de responsabilité, ce qui convenait admirablement à son caractère. Très brave homme, d'ailleurs, il n'avait qu'une toquade, c'était de s'imaginer, chaque matin, qu'il avait enfin découvert, dans une niaiserie quelconque, un moyen infaillible de refaire fortune. Et c'était même cette conviction qui lui permettait d'accepter l'hospitalité de sa famille, tant il était persuadé qu'il pourrait un jour l'indemniser de tous ses bienfaits. Pourvu qu'on flatta cette manie, il était heureux et vivait satisfait.
« Eh bien, quoi de neuf, mon cher Emmanuel ?» demanda l'industriel. « Tu as fait ta petite promenade, tu as flâné chez les bouquinistes. Es-tu sur la trace de quelque nouvelle mine d'or ? Tu sais, d'Agincourt, c'est une spécialité de mon cousin. »
« Mais, sourit Albert, c'est une spécialité dont nous voudrions tous avoir le monopole. »
Valérac, sans répondre, s'agitait, grimaçait, faisait des gestes désespérés.
« Voyons, quoi, qu'a-t-il fait ?» reprit M. Chabran.
« C'est que je me demande si je dois, si je puis... »«
Oui, oui, parle sans crainte. D'Agincourt n'est pas un étranger, il est de la famille. De quoi s'agit-il ? » ?»«
D'abord, il faut que je m'accuse... J'ai commis une grosse indiscrétion en écoutant la conversation confidentielle de ces demoiselles. Mais, dame, ça a été involontaire, j'ai été surpris plus que je n'ai cherché à surprendre. Et lorsque j'ai saisi le sujet scabreux de l'entretien, je suis venu.
Que diable nous racontes-tu là ? Interrompit Amédée. Tu es fou ? Une conversation confidentielle, un entretien scabreux entre ces demoiselles, qu'est-ce que tout cela signifie ?
« Non, non, je ne suis pas fou, » insista Valérac. « J'étais là, à côté, dans la bibliothèque, entre ton cabinet et la salle de billard, lorsque Mademoiselle de Nestala et Lucienne y sont entrées. Mais d'ailleurs, il est facile de vérifier, j'aime mieux cela.
C'est indigne d'écouter aux portes, remarqua M. Chabran.
M. d'Agincourt approuva.
Tout de même, il pouvait être utile de se renseigner.
L'émotion de Valérac paraissait si profonde, si sincère, que peut-être il y avait, pour l'autorité du père, un devoir à remplir. Alors l'industriel ouvrit la porte de la bibliothèque et les trois hommes s'approchèrent à pas de loup jusqu'à la porte opposée donnant accès dans la salle de billard.
C'est affreux, c'est abominable, une pareille accusation, répétait Lucienne avec un ton de révolte indignée.
Tant que vous ne m'apporterez pas des preuves indéniables de ce que vous avancez, je refuse d'y croire.
Enfin, ma chère amie, c'est de l'enfantillage, reprenait plus bas Josiane.
Des preuves de ce que j'avance, on n'en aura jamais, à moins que vous n'espionniez ou ne fassiez espionner M. Henri. Si encore je n'appuyais mon assertion que sur un seul témoignage, celui de Gaétan, qui a pourtant vu distinctement cette fille se glisser chez M. d'Agincourt, vous pourriez taxer ce témoignage de partialité, le révoquer en doute. Mais ce que je viens de vous dire, c'est le secret de Polichinelle. Tout Bordeaux connaît la liaison de M. Henri et de cette petite. On prononce même son nom. C'est une nommée Angèle Mazerin, je crois. Vous voyez ?
Eh bien, si tout Bordeaux connaît cette horreur, moi je l'ignorais, riposta sèchement Lucienne.
Et je voudrais, je devrais l'ignorer encore. Ces choses-là ne regardent pas les jeunes filles. Et si vous croyez, vous, pouvoir vous en occuper, moi j'avoue que ma mère ne m'a jamais permis de mettre le nez dans de telles turpitudes.
L'histoire court les salons, ma chère. Monsieur d'Agincourt est la risée de toute la ville, au point que sa situation paraît déjà fort compromise.
Je vous répète que si l'histoire court les salons, elle n'était pas encore parvenue jusqu'à mes oreilles. Et vous le pensiez bien, puisque vous avez jugé utile de me l'apprendre.
J'avais la conscience de vous rendre service.
Comment cela ? Que m'importent, en somme, les faits et gestes de M. d'Agincourt ?
Mille pardons de m'être trompé. Il me semblait que les faits et gestes de M. d'Agincourt pouvaient encore vous intéresser.
Il y eut un silence. Puis, tout à coup, Lucienne s'écria, avec un accent de rage impuissante, désespérée.
Non, non, ce n'est pas possible, cette trahison.
Tiens, tiens, fit tranquillement Josiane, voilà le cri du cœur qui montre toute votre soi-disant indifférence. J'avais donc raison, ma chère Lucienne, de supposer que ma confidence aurait de l'intérêt pour vous.
Monsieur Chabran, derrière la porte, jeta un regard sombre sur ses deux complices en indiscrétion. Très rouge, le sang aux pommettes, gonflé d'une violente irritation, l'industriel était sur le point d'éclater, d'entrer dans la salle à l'improviste, de provoquer un coup de théâtre.
D'Agincourt l'avait deviné. Il le retint.
« Pas d'esclandre, surtout » souffla-t-il en lui posant la main sur le bras pour l'entraîner. « Il suffira de faire un peu de bruit dans la pièce voisine. » Ces demoiselles l'entendront, s'apercevront de leur imprudence et se sépareront. Malgré toute son indignation, Chabran se rendit à la sagesse de ce conseil et tous les trois regagnèrent le cabinet de travail de l'industriel en laissant la porte ouverte de façon à ce que le bruit de leur voix parvint jusqu'à la salle de billard. Quelques minutes plus tard, M. d'Agincourt, qui se sentait mal à l'aise, prit congé.
« Au revoir, mon cher !» fit-il en serrant avec effusion les mains de son ami. « Et je t'en prie, pas de scène, pas de tapage. Nous reparlerons de tout cela prochainement. » Quand l'ancien inspecteur des forêts rentra chez sa belle-sœur, ce fut bien autre chose. Madame d'Agincourt était seule à la maison, encore profondément bouleversée. Elle se jeta presque, tout éplorée, dans les bras de son beau-frère, avec un élan d'épanchement inusité chez elle.
« Je sais tout » pleurait-elle, « je sais tout. Monsieur Urbain de Nestala sort d'ici. Il m'a raconté cette triste affaire dans tous ses détails. Henri a une liaison depuis 3 mois avec une ouvrière. N'avais-je pas raison, mon pauvre Albert, de vous appeler à mon secours ?
une liaison qui a déjà rendu mon fils la fable de tout Bordeaux. Je comprends maintenant certains sourires sur mon passage. Une liaison qui va compromettre son avenir, lui attirer des réprimandes de ses chefs, de mauvaises notes, une disgrâce peut-être. Mon Dieu, comment sortirons-nous de là ?
M. d'Agincourt laissa passer l'orage. Puis il déclara tranquillement « Moi aussi, je sais tout. J'ai rencontré chez les Chabran une certaine demoiselle de Nestalas qui a éprouvé le besoin de mettre Lucienne au courant. »
« Eh bien, votre opinion, que faut-il faire ?»«
Quelle impatience, ma chère Marie. Ce qu'il faut faire, je ne sais pas, nous verrons. On ne prend pas ainsi, tambour battant, des décisions de cette importance qui comportent tant et de si délicates nuances d'exécution. » À ce moment, la clé tourna dans la serrure du vestibule.
« C'est lui !» soupira Madame d'Agincourt. « Il vient encore de chez cette fille, sans doute !»
« Du calme, je vous en conjure, » supplia le vieillard. « Qu'Henri ne soupçonne pas vos préoccupations et laissez-moi faire, je me charge de tout. » Mais la vieille dame s'entêtait.
« Pensez donc, une malheureuse, une pauvresse dont la mère est au lit et la famille sans pain. Notre comité des dames chrétiennes les secourait, d'après les indications, à la prière de monsieur mon fils d'ailleurs. » Il y a 3 mois cependant, il m'a dit de cesser ses secours. Maintenant, je comprends pourquoi.
Chut, signifia Albert. Le voici, il pourrait nous entendre. Henri, qui avait été absent toute la journée, rentrait, l'air un peu las, avec dans le regard toutefois un rayonnement d'intime satisfaction.
Bonjour, maman. Bonjour, mon oncle. Comment ça va ?
Madame d'Agincourt, les lèvres pincées, ne répondit pas.
« Mais ça va très bien, » dit l'ancien forestier après une seconde d'hésitation. « Les Chabran m'ont fait un accueil des plus aimables. »«
Ah !» murmura Henri, distrait. Et silencieux, ils passèrent dans la salle à manger.